semaine olympique pour le Briançonnais. Edgar Gros-Piron, président du COJO, et Damien Robert, directeur de la Solideo, étaient à Briançon hier. Au programme, le village olympique prévu au fort des Trois Têtes. Le calendrier s'annonce très serré. Autre visite attendue, c'est aujourd'hui que Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, est arrivé dans la cité Vauban par le train de nuit. Il doit aborder les travaux ferroviaires et les investissements menés en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Attention à cette arnaque sur les réseaux sociaux, elle concerne les transports urbains de Digne-les-Bains, un faux profil qui vous propose une carte en édition limitée à seulement 2 euros. À Embrun, la gendarmerie enregistre une recrudescence de cambriolages, des individus prétextent d'interventions techniques pour mener des repérages. Le statut du loup sera bien déclassé, il passera d'espèce strictement protégée à protégée. Après la convention de Berne, c'est la directive Habitat qui évolue en ce sens. La fiscalité de trop pour l'UPE 05, alors que la région doit voter la semaine prochaine une nouvelle taxe pour les entreprises des 11 salariés. Le versement mobilité régionale, c'est la goutte fiscale qui fait déborder le vase, selon l'Union patronale Alpine. Le jardin des papillons au sein du musée Promenade de Digne-les-Bains se réinvente. 20 000 euros ont été investis pour de nouveaux aménagements afin de mieux observer la centaine d'espèces de papillons qui y résident. Mais tout d'abord, prudence sur nos territoires. Plusieurs vigilances jaunes sont en cours pour pluie et inondation ainsi que pour avalanche. Et puis dans les Hautes-Alpes, c'est aussi une vigilance jaune pour neige, verglas et crue pour les Alpes d'Haute-Provence. Une météo d'avril qui joue les troubles faits sur les routes avec la départementale 946 à Saint-Vincent-sur-Jabron, fermée à cause d'un risque de coulée de boue. Impossible de circuler sur cet axe après le carrefour de Pied-Guichard en direction des Omergues. Une déviation s'effectue par les gorges de la Méouge. Côté Haut-Alpin, la départementale 43 à Saint-Julien-en-Champsaur a été fermée hier en raison d'un éboulement. Elle a pu rouvrir ce matin à 10h. Une semaine olympique pour les Alpes du Sud. Après la mise en place de la Solideo lundi depuis Marseille, l'acte 1 des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans le Briançonnais a été posé hier avec la visite d'Edgar Gros-Piron, président du COJOP, et Damien Robert, directeur de la Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques. Au programme, le village olympique prévu au fort des Trois Têtes à Briançon, car c'est la Solideo qui en aura la maîtrise d'œuvre. Le calendrier est fixé. Très serré, Nino Dalbera.
D'abord, on étudie, ensuite on fait, a lancé Arnaud Murgia, le maire de Briançon. Car avant même d'avoir le oui du CIO, les études capacitaires avaient déjà été engagées sur ce fort des Têtes pour savoir si, oui, il pourrait accueillir le millier d'athlètes prévus, si, oui, on pourrait ensuite le transformer en quartier de vie avec entre 150 et 200 logements après 2030, et si, oui, la clause patrimoniale de ce lieu protégé serait respectée. Et la réponse, c'est oui. Dès juin prochain, les candidatures pour transformer le fort des Trois Têtes en village olympique seront déposées. Avant le 15 juillet, les candidats seront sélectionnés, puis viendra jusqu'à octobre l'élaboration du projet avant la remise d'une offre finale début 2026. Le calendrier est très serré car on vise la livraison du village dès l'année 2029, la fin d'année. Il faut aller vite pour rénover 17 bâtiments du fort et implanter des extensions contemporaines sur 3 bâtiments en suivant les plans initiaux de Vauban inachevé. En 2 ans, les travaux devront être menés pour accueillir 940 athlètes et penser à l'après, à ces logements destinés aux primo-accédants. Une résidence pour les travailleurs saisonniers devrait aussi voir le jour. L'ancienne chapelle, elle, sera destinée à l'attractivité économique. Il est également en projet un lieu muséal pour témoigner de l'histoire militaire du site et un nouveau théâtre intercommunal. Quant à l'usine de la Chape, des discussions sont en cours avec l'actuel propriétaire. La ville a confié la charge à la Solideo de négocier l'acquisition, une usine qui devrait accueillir des capacités d'hébergement supplémentaires pour la famille olympique et les volontaires du COJOP. Ils seront transformés en logements supplémentaires, dont au moins 25% réservé à l'accession sociale à la propriété.
Merci Nino. Et encore une fois, le mot héritage a martelé les discours ce mercredi de cet après 2030 qui devra servir au territoire, car les Jeux sont de passage, comme l'expliquait au micro alpin Edgar Gros-Piron, le président du comité d'organisation des Jeux. On l'écoute.
On est de passage, on n'est pas là longtemps, mais on sait que ce passage-là, il va marquer et peut-être transformer, ou en tout cas écrire une petite page de l'histoire de la région dans laquelle on est venu poser nos valises. On fait les Jeux, on vient, on repart, mais on a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la région, de la commune dans laquelle on est passé. C'est formidable parce qu'on sait que le jour où on reviendra, bah, les gens se souviendront et les gens auront à cœur de partager leur enthousiasme de ce qu'ils ont vécu.
Acte 1 hier, acte 2 aujourd'hui, donc avec la visite de Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF est arrivé ce matin dans le train de nuit Paris-Briançon. Ses annonces sont attendues, celles des travaux ferroviaires. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé mi-mars une commande de 27 locomotives et 180 voitures pour les trains de nuit. Priorité, livrée avant 2030 pour la ligne des Alpes et sans retard, au risque de rater les JO. Écoutez Jean-Pierre Farandou au micro Alpe 1.
Sur le train de nuit Paris-Briançon, il y a deux échéances. Il y a l'échéance JO, où là, on l'espère, les travaux de voie seront terminés sur l'ensemble de l'axe, notamment autour de Valence, etc. Tout sera prêt, avec du matériel neuf. Donc là, franchement, on aura tous les outils de travail ferroviaire, à la fois une voie ferroviaire aménagée, rénovée, et du matériel neuf pour faire un très bon service, j'en suis sûr. En attendant, il faut faire avec la voie et les travaux qui sont sur la voie, il faut faire avec les matériels existants qu'on a renforcés. Là, l'objectif, on est en ce début d'année à 70% de régularité. Moi, je pense que la barre des 80% est atteignable. Et 80%, vous savez, c'est la régularité moyenne des TGV en France. Donc si on arrive à mettre la ligne Paris-Briançon 800 km quand même, hein, avec plus de 200 km de voie unique, donc c'est pas facile, avec des manœuvres en cours de route, si on arrive à la mettre au niveau de la moyenne des TGV, je pense que c'est un bon objectif. Je pense qu'il est atteignable. On a encore quelques efforts à faire, de la robustesse encore à introduire dans l'exploitation. Mais je pense que c'est ça l'objectif que je fixe à la SNCF pour les mois qui viennent.
Transport toujours, mais avec cette arnaque qui circule sur les réseaux sociaux et qui touche les transports en commun dinois. Un faux profil nommé Transport en commun à Digne-les-Bains propose une carte de transport en édition limitée avec des trajets gratuits pendant 6 mois pour 2,35 €. Provence-Alpes-Agglomération et la ville de Digne alertent les usagers. Il s'agit d'une escroquerie. Elle recommande de ne pas cliquer sur le lien, de ne pas communiquer des informations personnelles ou bancaires. À Embrun, cet appel à la prudence face à la recrudescence des cambriolages. Les gendarmes notent une augmentation ces derniers jours d'intrusions dans des domiciles au prétexte d'interventions techniques. Il s'agit en fait de repérage. En bref, les urgences de Manosque fermées toutes les nuits jusqu'au 28 avril inclus. Le SMUR restera maintenu jour et nuit, tout comme l'accueil des femmes enceintes. Les urgences seront ouvertes au public entre 8h30 et 18h30 et régulées par le SAMU jusqu'à 20h30. Il est recommandé de composer le 15 pour bénéficier de la meilleure orientation. Le statut du loup sera bien déclassé. Il passera d'espèce strictement protégée à protéger. Après le vote en ce sens du comité permanent de la Convention de Berne en décembre dernier, il restait la directive Habitat à faire évoluer. C'est chose faite puisque le Conseil de l'Union européenne a validé ce mercredi la proposition de changement du statut de protection du loup. Une avancée concrète et attendue pour nos territoires ruraux et de montagne, nos éleveurs et nos filières agricoles, selon Renaud Muselier, le président de la région Sud. Notez qu'on comptabiliserait 19 000 spécimens de loups sur le territoire européen contre 14 300 en 2016. Versement, mobilité régionale, une fiscalité de trop pour l'UPE des Hautes-Alpes. Comme nous vous l'annoncions hier, la région Sud va faire voter lors de la plénière du 23 avril prochain une nouvelle taxe de 0,15% de la masse salariale pour toutes les entreprises dès 11 salariés. Le VMR devrait permettre de financer les transports collectifs. L'UPE des Hautes-Alpes appelle les élus régionaux à rejeter cette délibération dans un contexte où les entreprises sont déjà mises à rude épreuve. L'union patronale craint une fragilisation de l'investissement, de l'emploi et de l'attractivité du territoire. L'UPE 05 déplore également l'absence totale de concertation sur ce sujet. Aucune rencontre, aucun échange malgré les sollicitations. Fin de citation. Un sujet plus léger dans l'actualité, très léger, avec le jardin des papillons au sein du musée Promenade de Digne-les-Bains qui se réinvente. De nouveaux aménagements ont été conduits durant la période hivernale pour permettre un meilleur accueil du public. 20 000 euros investis au total. Ce lieu mis en place au début des années 2000 est le premier jardin aux papillons qui a vu le jour en plein air en France. Ici, des plantations locales ont été installées pour favoriser la présence de plus de 140 espèces. Jérémy Subia est directeur du Géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence et du musée et promenades de Digne-les-Bains.
Tous les ans, nous essayons de renouveler les propositions de visite, que ce soit à l'intérieur du parc arboré, qui comprend donc le jardin des papillons, mais aussi au sein de salles d'exposition qui sont situées dans la maison des remparts. Donc sur le jardin, on l'a amélioré en reprenant toute la signalétique d'interprétation qui explique justement toute cette biodiversité des papillons, les différentes espèces qu'on peut observer, mais également une signalétique d'interprétation qui présente les différents milieux naturels qui composent le jardin, des murs en pierre sèche, des zones de prairies, des zones humides, des zones avec des plantes aromatiques. La nouvelle signalétique permet à la fois de donner des contenus sur les papillons qu'on peut observer, mais également sur les milieux différents dans lesquels ils évoluent. Ensuite, on a également amélioré le parcours. On a également essayé d'améliorer les services offerts aux visiteurs au sein du jardin avec une nouvelle fontaine. Et on a aussi mis en place une grande ombrière.
20 000 visiteurs ont été accueillis l'an passé d'avril aux vacances de la Toussaint sur le site du musée Promenade. Et depuis le 1er avril et la réouverture du lieu, la fréquentation a d'ores et déjà doublé par rapport à l'an passé.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.